Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
L'immense tragédie de la Shoah doit servir d'avertissement, surtout pour les nouvelles générations. Recevant une délégation juive de Rome, le pape François a mis en garde contre les idéologies et contre toutes les formes de racisme. Il pourrait bientôt visiter à son tour la synagogue de la ville éternelle. Au moins 150 000 personnes attendues à Rome en cette fin de semaine pour les journées mariales de l'année de la foi. Devant la statue de Notre-Dame de Fatima, le souverain pontife consacrera le monde au cœur immaculé de Marie. En raison de l'insécurité, la plupart des communautés de religieuses ont été priées de quitter la Libye. Réunis en assemblée plénière à Rome, les évêques d'Afrique du Nord ont parlé de la situation dans leur pays. Vous entendrez l'archevêque de Tunis. Une page d'histoire méconnue, quelques 10 000 catholiques, prêtres, religieux et laïcs ont été tués par les républicains dans les années 30 en Espagne. Un nouveau groupe sera béatifié ce dimanche à Tarragone. Fin de semaine mariale, le Vatican, samedi en début de soirée, le pape François accueillera solennellement la statue originale de Notre-Dame de Fatima qui sera portée en procession sur la place Saint-Pierre entourée des gardes suisses et des gendarmes du Vatican. La statue quittera le Portugal le matin du 12 octobre pour y retourner dans l'après-midi du 13. À son arrivée au Vatican, elle fera d'abord une halte au monastère Mater Ecclesiae où réside Benoît XVI. En signe de respect et d'affection, le pape François a voulu que son prédécesseur soit le premier à l'accueillir. Dimanche, anniversaire de la dernière apparition de la Vierge à Fatima, le souverain pontife célébrera la messe en plein air en présence de centaines de mouvements et d'associations de dévotion mariale. Point d'orgue de ce rassemblement, à la fin de la célébration eucharistique dimanche, le pape François consacrera le monde au cœur immaculé de Marie. Le 8 octobre 2000, Jean-Paul II avait consacré le nouveau millénaire à la Vierge en présence de 1500 évêques du monde entier et devant la statue originale de la Vierge de Fatima. Le pape François s'inscrit donc dans cette histoire papale de dévotion mariale, une dévotion sur laquelle revient Mgr Fisichella, président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation.
Dans le cadre de l'année de la foi, la pitié mariale, c'est obligatoire parce que cela vient de la nature même de Marie. Marie est l'icône de la foi et c'est la dimension plus forte que nous avons dans l'Église pour montrer la spécificité et la nature même de la foi, c'est-à-dire l'abandonnement total, une totale obéissance à la volonté de Dieu. Et alors je dirais que dans l'année de la foi, la pitié mariale vient à réunir millions de personnes, des croyants par tout le monde, seront en communion, seront spirituellement présents avec nous pour donner encore une fois la dimension mariale de la foi.
C'est un élément important dans le cadre aussi de la nouvelle évangélisation.
Marie a été confiée à l'apôtre, dit l'apôtre Jean, pour être avec lui évangélisateur. Alors cela est dans la nature même de l'Église. Marie appartient à l'Église et Marie appartient à la nature même que l'Église possède sur le commandement du Seigneur. Cela est porter l'Évangile partout et dans tout le monde. Et n'oublions pas que Marie a accompagné, et selon la tradition, a accompagné Jean dans son voyage pastoral pour porter l'Évangile.
Des propos recueillis par Olivier Tosseri. Vous pourrez suivre ces événements en images et avec commentaires en français sur le player de Radio Vatican à l'adresse radiovaticana.va, samedi soir à partir de 16h45 et dimanche matin à partir de 10h20. Le grand rabbin de Rome a invité le pape François à visiter la synagogue de la ville éternelle. Riccardo Di Segni a été reçu ce vendredi matin au Vatican avec une délégation d'une trentaine de membres de la communauté juive romaine. Cette audience pontificale intervenait à quelques jours du 70e anniversaire de la déportation des juifs de Rome, le 18 octobre 1943, victimes innocentes de la barbarie humaine. Xavier Sartre.
Les nazis étaient entrés dans Rome le 10 septembre. peu après avoir occupé le centre et le nord de l'Italie. Quelques 120 000 juifs vivaient alors dans la capitale italienne. 4 000 d'entre eux étaient cachés dans diverses institutions catholiques, y compris au Vatican. Plus de 2 000 autres furent déportés, dont la moitié à Auschwitz. Dans ces heures sombres, la communauté chrétienne de la ville a su tendre la main à ses frères en difficulté, a rappelé le pape devant le grand rabbin. Le pape qui a voulu profiter de cette occasion pour lancer un appel pressant afin que l'antisémitisme soit banni des cœurs de tous. Le christianisme et l'antisémitisme sont en contradiction, a-t-il martelé. Il a reconnu que l'histoire de la cohabitation judéo-chrétienne à Rome avait été émaillée d'incompréhension et d'injustice flagrante, mais les temps ont changé après la tragédie de la guerre. Le Concile Vatican II y a fortement contribué. Aujourd'hui, il faut veiller à ce qu'aucune forme d'intolérance et de racisme ne ressurgisse à Rome ni ailleurs. Pour le pape, il faut certes approfondir la réflexion théologique et intellectuelle, mais cela ne suffit pas. Il faut aussi encourager le dialogue de vie au quotidien, la culture de la rencontre, sans préjugés ni soupçons. Mais pour le grand rabbin de Rome, il ne faut pas non plus se faire d'illusions, tout n'a pas été résolu, il faudra encore travailler, a-t-il dit, pour comprendre les sensibilités et clarifier les points critiques et faire grandir l'amitié et la confiance et pour que le respect réciproque soit authentique.
Et le pape François a remis au grand rabbin un message pour la communauté juive à l'occasion de l'anniversaire de la déportation. La souffrance du peuple juif pendant la Shoah a été abordée il y a quelques jours à Rome lors d'une rencontre internationale pour la paix organisée par la communauté catholique de Sant'Egidio. Une table ronde a été consacrée à la douleur des peuples, à la souffrance des victimes, des conflits, mais aussi à la souffrance des malades, des exclus et des personnes isolées. On a ainsi évoqué la guerre en Bosnie-Herzégovine, le conflit qui déchire actuellement la Syrie et le génocide subi par la communauté Sinti en Allemagne. Parmi les intervenants à cette table ronde, le père Antoine Guggenheim, directeur du pôle de recherche du Collège des Bernardins à Paris.
Au début, on n'a pas envie de pardonner, bien sûr, et peut-être que certains n'y arriveront jamais. Le but n'est pas de faire peser sur les victimes un devoir de plus qui serait le devoir de pardon, ça n'a pas de sens. Mais sortir, par exemple, de la vengeance et déjà demander la justice. Il faut appeler un chat, il faut nommer le mal, il faut dire que ceci est un génocide, que ceci a été une violence. Donc la vérité, la justice sont déjà, au fond, des actes d'amour. C'est renoncer à devenir soi-même violent, à rendre un coup, ou 10 coups pour un coup. Alors que dès qu'on nous fait mal, on a envie d'être violent. Alors le pardon, c'est l'ultime chemin, mais il est déjà dans le cœur depuis le début. Quand on ne s'est pas laissé détruire, c'est dire « l'autre vaut mieux que le mal qu'il m'a fait ». L'autre aussi est un être humain, ou l'autre aussi est un enfant de Dieu. Lui aussi est blessé, s'il est blessant, c'est qu'il est blessé. S'il reconnaît son tort, qui suis-je pour l'enfermer dans son passé ?
Le pardon, vous l'avez évoqué au travers de Dieu. Les violences, malheureusement, touchent aussi bien les croyants que les non-croyants, aussi bien du côté des victimes que du côté, on va dire, des agresseurs. Comment on peut trouver... ou quelle est la valeur qui pourrait transcender un peu tous ces clivages pour amener à la paix ?
Il y avait depuis la Deuxième Guerre mondiale, et en particulier depuis la Shoah, un chemin qui se dessinait, qui, sans relativiser du tout la différence entre les croyants et les incroyants, montre que les uns et les autres sont pareillement convoqués, invités à changer à cause de la souffrance. Les croyants doivent analyser ce qui, dans leur compréhension religieuse de la souffrance, ne va pas, n'est plus crédible ou ne l'a jamais été. Les incroyants ne peuvent pas dire la souffrance est bien la preuve que Dieu n'existe pas, donc nous avions raison, ça serait du niveau d'une cour de récréation, ça n'a pas de sens. Les uns et les autres doivent comprendre que le problème du mal et de la souffrance n'est pas un problème théorique, mais un problème pratique. Ce qui rend la souffrance horrible, c'est qu'elle est une réalité pratique. Si elle n'était qu'une idée, ça serait plus facile de s'en sortir. Et donc la réponse à un problème, à un mystère, à un scandale pratique ne peut être qu'un acte. Et donc c'est l'amour qui est la réponse à la souffrance, qui peut évidemment être reconnu par des incroyants comme étant la charité chrétienne et imité par eux dans un combat politique, par exemple, un combat pour la justice, un combat pour l'égalité des droits, un combat pour changer les lois en faveur des personnes handicapées, comme le cas de Julia Kristeva, cette femme incroyante, invité par Benoît XVI aux rencontres d'Assise. Alors, il y a encore une autre valeur qui unit croyants et incroyants dans le combat contre la souffrance et pour le pardon, c'est la transcendance de la vie humaine, la reconnaissance de qu'on n'est pas des animaux comme les autres, qu'il y a en l'homme une transcendance, qu'elle soit métaphysique ou pas, n'est pas important à ce niveau-là, et que nous avons ensemble à respecter toute vie humaine et la vie humaine quelconque. pas simplement les grands héros, pas simplement les grands médecins, pas simplement les grands militaires ou chefs d'État, c'est la vie humaine quelconque qu'il faut défendre comme un trésor.
Des propos recueillis par Xavier Sartre. En Espagne, 522 martyrs de la guerre civile seront béatifiés dimanche. Le pape François sera représenté par le cardinal Angelo Amato, préfet de la Congrégation pour les causes des saints, mais il devrait adresser un message vidéo aux participants. En Espagne, les persécutions avaient commencé avant la guerre, immédiatement après le coup d'État républicain de 1931. Dans cette nation très catholique, l'Église était en effet associée à la couronne. Elle fut donc prise pour cible en même temps que la monarchie. Les discriminations s'accompagnèrent d'abord d'une campagne médiatique féroce. Puis les exécutions commencèrent en 1934. Des religieux, mais aussi des jeunes, des pères et des mères de famille qui refusèrent d'abjurer, furent abattus. Pendant cette vague anticatholique, 70% des églises d'Espagne furent endommagées, les œuvres d'art sacrées saccagées, les cimetières profanées. Le pape François a reconnu ce vendredi la sainteté d'une mystique italienne du Moyen-Âge sans attendre la reconnaissance d'un deuxième miracle et l'aboutissement de la cause de canonisation. Il s'agit de la bienheureuse Angèle de Foligno, morte en 1309 à l'âge de 61 ans. Le souverain pontife l'a inscrite dans le catalogue des saints. En mai 2012, Benoît XVI avait pris une décision analogue pour la grande théologienne bénédictine allemande Hildegard de Bingen. Le cas d'Angèle de Foligno faisait partie d'une série de décrets de la Congrégation pour les causes des saints, approuvés ce vendredi matin par le souverain pontife. Parmi les futurs bienheureux figure une religieuse québécoise, Marie-Élisabeth Turgeon, fondatrice de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire. Le président du Parlement européen a été reçu au Vatican ce vendredi avec les membres de sa suite. Il était accompagné notamment du maire d'Aix-la-Chapelle, sa ville natale. L'échange a duré environ une demi-heure en présence d'un interprète. La pauvreté et l'émigration figurent parmi les principaux thèmes abordés au cours d'un entretien long et extrêmement ouvert consacré aux problèmes les plus urgents de l'Europe. Selon le président du Parlement européen, l'Europe devrait mettre en place des couloirs humanitaires pour les réfugiés, accorder des permis temporaires et renforcer l'assistance à l'immigration légale. Le directeur du bureau de presse du Saint-Siège a indiqué que le pape François avait insisté sur deux points qui lui sont chers, le chômage des jeunes et la culture du rebut. Martin Schulz a offert au pape François un album de photos sur la visite de Jean-Paul II au Parlement de Strasbourg il y a 25 ans. Un an avant la chute du mur de Berlin, Jean-Paul II avait rappelé aux députés leur devoir à l'égard de l'autre Europe, à savoir l'Europe de l'Est. Martin Schulz a invité le pape François à s'adresser lui aussi au Parlement européen pour y faire passer son message de solidarité dans une Europe en crise. Il nous a expliqué le sens de cette invitation.
Le Parlement européen a reçu il y a exactement aujourd'hui 25 ans Jean-Paul II pour adresser la plénière du Parlement européen. À l'époque, avec un message d'encouragement dans un temps changeant. C'était exactement un an avant 88, la chute du rideau de fer, ça veut dire c'était dans un moment du changement mondial. Nous sommes aujourd'hui de nouveau dans un moment du changement mondial. La globalisation et le rôle de l'Union européenne dans le cadre de cette globalisation et le rôle du pape dans ces cadres et ces messages sont à mes yeux une raison très importante pour inviter et pour convaincre le pape de nouveau adresser les 754 représentants des 507 millions citoyens et citoyennes en Europe.
Le président du Parlement européen, Martin Schulz, interrogé par notre confrère de la rédaction italienne, Fabio Colagrande. Après son entretien avec Martin Schulz, le pape François a reçu le président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Jean-Claude Mignon. Je vous le disais en titre, la conférence des évêques de la région nord de l'Afrique s'est réunie cette semaine au séminaire français de Rome. Les évêques ont travaillé notamment sur un projet de document concernant la présence et l'action de l'Église catholique au Maghreb dans un contexte régional et ecclésial en pleine évolution. Dans leur communiqué final, les évêques du Maghreb font état d'un contraste très fort entre la Libye et les autres pays. En raison de l'insécurité, la plupart des communautés de religieuses ont ainsi été priées de quitter la Libye. L'Algérie, quant à elle, vit dans l'attente des prochaines élections présidentielles, tandis qu'au Maroc, la nouvelle constitution se met en œuvre peu à peu sur fond d'incertitude due à la crise économique mondiale. Enfin, en Tunisie, c'est l'incertitude qui prévaut 2 ans après les élections et dans l'attente d'une constitution sur fond de difficultés économiques et sociales croissantes. Monseigneur Ilario Antoniazzi est archevêque de Tunis depuis le mois d'avril. Manuela Affigi l'a rencontré. Il réagit tout d'abord à la tragédie de Lampedusa.
Je pense qu'il y a un double travail à faire. Un travail à Lampedusa, tout d'abord, pour recevoir ces personnes qui arrivent, qui soient traitées d'une manière humaine. Je sais que l'Italie fait beaucoup de choses pour ça. On ne peut pas peut-être lui reprocher plus que ça à l'Italie, parce que parfois il en a tellement à Lampedusa qu'il y a plus de migrants que d'habitants à Lampedusa. Et l'Europe devrait faire beaucoup plus en Afrique, pour que les guerres cessent, pour que les gens aient plus à manger, pour faire apprendre aux gens qui sont là comment vivre, comment travailler.
L'Europe a sa part de responsabilité, mais également les régimes africains peut-être.
Il ne faut pas jeter toute la responsabilité sur le régime africain. Ce sont des régimes qui parfois ne les acceptent pas. Mais quand il s'agit d'aller pour le pétrole, pour des matières précieuses qui se trouvent dans les sous-sols, l'Europe ne voit pas les régimes, il les trouve très bien. Sauf quand il y a des tragédies comme celle de Lampedusa. Alors, les régimes. Non, non, il faut aller lentement. Il y a une responsabilité commune et ni l'Afrique, ni l'Europe doivent s'échapper à ça.
Vous êtes donc archevêque de Tunis, vous êtes arrivé depuis 5 mois maintenant, en plein cœur d'une réalité marquée par les changements politiques et sociétaux advenus ces derniers temps. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la situation actuelle en Tunisie ?
Vous savez, extérieurement, quand on arrive, on trouve que tout va bien. C'est-à-dire qu'on ne voit pas de personnes armées dans la rue. Il n'y a pas de coups de feu, il n'y a absolument rien. Dans le sud, oui, dans les Chambis, il y a eu des terroristes qui sont venus de l'Algérie et qui ont essayé d'attaquer l'armée. Ils ont eu des gens égorgés. Il y a eu des événements qui sont vraiment douloureux. Mais on n'est pas stable. Nous disons tous les jours, aujourd'hui ça va bien, demain, qu'est-ce que ça va arriver, on ne sait pas. Étant donné qu'on n'a pas de constitution, quand on n'a pas de constitution, ça veut dire qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas un gouvernement sérieux, et stable surtout, parce que l'opposition demande qu'il s'en aille tout le temps. Et cette lutte qu'il y a au pouvoir entre le gouvernement et l'opposition, et jusqu'à présent, on vit dans une belle confusion. Et vivre dans la confusion, vous savez, ça peut arriver qu'un jour ça éclate, quand les gens n'en peuvent plus de vivre dans la confusion. Et confusion qui porte pauvreté, qui porte la peur. Quand on voit que des personnes disent « ça serait mieux de revenir comme on était dans le passé », il n'y avait plus de sûreté. Mais revenir en arrière, on ne peut pas. Il faut toujours aller à l'avant. Mais on ne voit pas un futur actuellement, un futur qui soit beau et surtout à la portée de la main.
Certains parlent d'une islamisation de la société tunisienne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu vous-même constater ?
Ça, c'est certain. Au temps de Ben Ali, avant la révolution, la dernière révolution, et la société ne manifestait pas ces signes d'islamisation comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit, par exemple, les femmes qui s'habillent comme des frères musulmans, les hommes avec la barbe, tout ça. Ce sont des signes. Et ensuite, dans les mosquées, souvent, on appelle les gens à vivre comme dans le passé et on voudrait remettre de nouveau la charia comme la loi du pays. Et les gens, le peuple, vous savez, qui a été habitué à une certaine liberté dans le passé, ne veut pas revenir comme il était peut-être au temps de là ou comme c'est dans d'autres pays islamiques où la loi, la charia est appliquée. C'est pour cela qu'il y a une lutte interne. C'est pour cela qu'il suffit d'une étincelle et tout risque de brûler. Et ça sera très dur.
C'était l'archevêque de Tunis. La prochaine réunion de la Conférence des évêques d'Afrique du Nord aura lieu du 14 au 19 juin, toujours à Rome. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie, mais je vous invite également à nous retrouver sur Internet, radiovaticana.va, ainsi que sur Facebook, Radio Vatican, en français. Bonne fin de semaine à tous.